Salut, bon lundi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec en espérant que vous ayez passé une belle journée. C'est les lundis, Maître Marc Bellemare qui est là. Bonsoir Monsieur Bellemare, comment allez-vous?
Hey, ça va bien, toi?
Oui, est-ce que vous avez vu un peu de soleil en fin de semaine? Je vois que votre teint a changé un peu, vous êtes un peu plus... un petit peu plus brun que d'habitude.
Un peu plus coloré.
Oui. Il y en a qui ont réussi à passer du temps à l'extérieur. Moi, j'ai fait une première cette année, Maître Bellemare. Ben, en fait, depuis le début du printemps, là, j'ai fait mon gazon.
Hey.
C'est l'enfer. C'était l'enfer, Maître Bellemare.
Comment ça? Il y avait de la roche puis des morceaux de métal, c'est
non,
ça?
Non, la roche, je l'avais toute ramassée. C'est que depuis un certain temps, je pense que ça fait 2-3 ans, là, les gens, au mois de mai, ne coupent plus leur gazon pour pouvoir permettre aux abeilles de butiner les mauvaises herbes. Et je suis embarqué là-dedans en ayant toute la bonne volonté du monde. Puis là, ben, j'ai toffé un petit peu plus de 3 semaines. Mais là, en fin de semaine, c'en était trop. Je me suis dit, là les pissenlits sont rendus pratiquement en neige, là, en petites graines. Donc, c'est le temps de faire le gazon. Puis, j'ai fait ça. Puis, j'étais bien fier. J'avais le gazon le plus beau du quartier, Maître Bellemare.
Ah, mon Dieu Seigneur. Alors, tu as dû mettre de l'engrais un peu pour verdir ça, là, pour faire rougir tes voisins, c'est ça?
Ben ouais, c'est ça. À chaque année, on fait ça. Est-ce que vous avez encore votre maison? Vous êtes en condo
non.
Maintenant?
Moi, je suis en condo, mais il y a des gens là dans le condo où j'habite qui s'occupent de faire ça et qui le font très bien parce que je dois te dire que c'est vert à plein. Là. C'est bien le fun.
Mais c'est-tu la belle vie, ouais. Ça, quand on est rendu au-delà de 50 ans, d'avoir un condo avec tous les frais fournis après la piscine, toutes ces affaires-là? C'est-tu la belle vie, ça?
Ben, c'est mon fils, mon plus vieux, qui m'avait convaincu en 2018 d'acheter un condo. Je n'étais pas trop ouvert à ça. Je me disais, moi, regarde, j'ai toujours une maison. Et ben un appartement, puis à un moment donné, quand j'ai eu des enfants, j'ai eu une maison. J'ai toujours eu une maison à partir de l'âge de 25 ans à peu près. Et à l'époque, on pouvait s'acheter une maison à 25 ans. Aujourd'hui, je sais que c'est pas mal plus compliqué. Et on a gazon, les feuilles, tout ça, j'ai toujours apprécié. Ça me faisait sortir. À partir de 2018, quand on m'a dit condo, j'avais une petite hésitation au début parce que je me disais, ben là... Tu sors de chez vous, tu es obligé de saluer 40 personnes, mais en réalité, c'est pas ça.
Non, c'est ça.
Alors, c'est un condo qui est organisé de sorte que tu vois presque jamais personne. Alors, ça permet d'assurer une certaine intimité, puis c'est bien apprécié. C'est silencieux aussi. Alors, oui, mais je sais qu'il y a des gens qui sont en condo pour qui c'est l'enfer, parce que ça dépend de ton voisin aussi. C'est comme dans n'importe quoi. Tu sais, si tu as un mauvais voisinage, en condo, ils sont plus proches que... En bungalow.
Ouais, mais
alors,
moi, je vous le dis.
Avant d'acheter, assure-toi de savoir c'est qui reste autour.
Je vous le dis tout de suite, quand mes enfants vont être en âge de quitter la maison ou quand ils auront le goût de quitter la maison, moi, je m'en vais directement dans ces immeubles à condos-là où il n'y a rien à faire la fin de semaine, mis à part ton ménage de ton condominium. Tu n'as pas de travail extérieur à faire. Puis je vais m'acheter un petit chalet, là, une genre de dompe là, dans le fin fond de la Beauce où je vais aller passer un peu de temps à chaque week-end. Ça va être ça, moi, ma cinquantaine, ma soixantaine, là, je vous le garantis, ça va être exactement
ça. C'est un beau
projet. Ah, le condo. En fin de semaine, il se passait beaucoup de choses en politique, entre autres Québec solidaire qui faisait leur rassemblement. Gabriel Nadeau-Dubois, on ne sait pas trop qu'est-ce qui allait devenir de lui ce week-end. Finalement, il a réussi à s'en sortir. Maître Bellemare, ça se passait au Saguenay, cette rencontre-là. Et ben, tout le monde aime Gabriel, finalement, alors que la semaine passée, là, on avait beaucoup de misère avec Gabriel. Là, en fin de semaine, on aimait Gabriel.
Oui, mais regarde, moi, je questionne beaucoup la couverture médiatique. Non pas que ce qu'on a dit, Gabriel Nadeau-Dubois, mais qu'on s'y intéresse à ce point-là. J'ai été très surpris de voir, surtout à Radio-Canada, l'importance qu'il accordait à cette rencontre-là. Je regardais la salle où l'espèce de congrès se déroulait à Jonquière. Il y avait quoi, 150 personnes, non? Il y avait beaucoup de bancs libres. Et on a donné énormément d'importance. Je comprends que les fins de semaine, il y a moins de nouvelles, là. Mais je trouvais qu'on mettait énormément de publicité autour de Québec solidaire en région. Oui, on est d'accord avec l'UPA. Oui, on est d'accord avec les agriculteurs. Oui, on prend un virage régional. Oui, on n'est pas juste à Montréal. Oui, mais tu sais, en termes de pub, as-tu évalué là, les, les millions que ça pouvait représenter pour un parti politique.
C'est incroyable.
Je trouve que c'était démesuré comme couverture. Ouais, personnellement, à toutes les 10 minutes, à RDI, Radio-Canada, on nous parlait de Québec solidaire par-ci, Québec solidaire par-là. Écoute, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a pensé à Justin Trudeau là-dedans, mais si j'étais Justin Trudeau, je m'organiserais pour avoir un démissionnaire dans mon caucus, puis faire une espèce de petit congrès d'urgence à Ottawa ou à Montréal, là. Puis il y aurait droit à une pub mur à mur pendant 2 jours à Radio-Canada.
Oui, mais c'était le conseil national de QS, là, ça se passait au Saguenay, je pense, au cégep de Jonquière. Puis quand on regarde les sondages, Québec solidaire score à 12 %. Là. Éric Duhaime score à 12 %, il n'aura jamais cette couverture-là.
Ben, c'est ça que je trouve démesuré. Et quand Éric Duhaime a droit à de la pub ou à une couverture à Radio-Canada, c'est assez... C'est assez négatif, merci. Alors, on sait où loge cette antenne. C'est assez clair maintenant dans ma tête. Mais personnellement, je trouve que pour une télévision nationale, c'était démesuré comme couverture. Personnellement, là, ça aurait pu faire l'objet des téléjournaux normaux, mais là, on était... Écoute, moi, j'ai surtout dimanche, là, la déclaration de Saguenay, on a l'impression que c'est comme la déclaration des patriotes. Là. C'est devenu quasiment comme la Constitution canadienne. Ouais. Non, mais regarde, tu pensais, toi?
Je suis entièrement d'accord avec vous. Là. C'était
poussé. Couverture, c'était, à mon avis, grossièrement exagéré. Et je ne pense pas que ce parti-là, avec le pourcentage d'appui qu'il y a dans la population, méritait autant de couverture pour... on n'est pas en campagne électorale. Là. On est dans une espèce de caucus hors session, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était abusif personnellement et ça monte un petit peu le jupon dépassé. Là, on s'intéresse beaucoup à ce parti-là et on lui donne énormément de couverture et cette couverture-là est favorable. Alors, je suis convaincu que les prochains sondages vont être plus favorables à QS, plus favorables à Gabriel Nadeau-Dubois qui a très bien paru et on l'a fait très bien paraître mur à mur. Et voilà, ça fait partie un petit peu de ma déception parce que moi, je suis pour une couverture médiatique équitable pour l'ensemble des partis. Et je trouve, si j'étais Éric Duhaime ce matin ou même Paul Saint-Pierre Plamondon, je me questionnerais sur toute l'importance qu'on a donnée à Québec solidaire en fin de semaine.
Bon, il y a des choses qu'on a apprises quand même en fin de semaine, là, c'est que la prochaine co-porte-parole de Québec solidaire qui va succéder à celle qui a démissionné, Émilise Lessard-Terrien, ça va être le 17 novembre là, qu'on va la couronner. En fin de semaine, Gabriel Nadeau-Dubois a fait un discours assez pragmatique et Québec solidaire, ben, en fait, de l'opinion de Gabriel Nadeau-Dubois, lui, il veut que Québec solidaire s'éloigne de l'image stéréotypée de moralisateur qui colle constamment à la peau de ce parti-là. Puis c'est vrai, on a toujours l'impression que Québec solidaire, à chaque fois qu'ils prennent la parole, c'est pour nous faire sentir coupables de faire ci ou de faire ça. Gabriel Nadeau-Dubois, ce qu'il veut, lui, c'est d'avoir un parti qui va peut-être ressembler plus à un possible gouvernement. Puis, à l'intérieur de Québec solidaire, l'idée ne plaisait pas à énormément de personnes. Puis, finalement, dans le troisième et dernier bloc là, de la déclaration qui a été votée, ben, les membres ont décidé d'accepter. Puis, ça a bien été pour Gabriel Nadeau-Dubois. Mais en fin de semaine, on ne savait pas trop si on allait assister à la fin de Gabriel Nadeau-Dubois ou si on allait y aller de l'avant avec lui pour les prochaines étapes. Là.
Bien, s'il y a eu de l'opposition ou des tensions au sein de ce parti-là en fin de semaine, on ne les a pas senties du tout. On n'a pas vu aucune intervention au micro d'une personne qui était défavorable. Alors, je ne sais pas, là. Puis c'est une des raisons. Moi, je pense qu'à partir de samedi, 3 heures, c'est assez clair que M. Nadeau-Dubois allait avoir une free ride là, vers ses prétentions initiales. Alors, ça valait-tu la peine de mettre autant de temps dans couverture dimanche? Bon, personnellement, je pense que non. On savait maintenant qu'il n'allait pas y avoir de cassure. Moi, je me souviens des tensions qu'il y avait dans les conseils nationaux du Parti québécois quand René Lévesque était là, puis que Louise Arel prenait le micro pour dire que Lévesque était dans le champ, puis qu'elle a drivé beaucoup l'opposition. Il y avait aussi M. Laviolette, là, qui a été un bout de temps, je pense, président de la CSN, qui était là pour faire valoir le point de vue de l'aile gauche, mais extrême gauche du Parti québécois. On avait vraiment l'impression que ça brassait, puis qu'il y avait différentes franges du parti qui s'affirmaient. Puis là, ça justifiait peut-être qu'on s'y intéresse au plan politique, surtout que le Parti québécois, à cette époque-là, était au pouvoir pendant plusieurs années.
Ouais.
Je trouve que cette fois-ci, là, la couverture de Québec solidaire a été clairement injustifiée, mais tant mieux pour M. Nadeau-Dubois, il va pouvoir en profiter, mais on peut se poser des questions sur l'impartialité puis l'objectivité de Radio-Canada dans ce dossier-là.
Puis de l'autre côté, ben c'était les libéraux qui discutaient en fin de semaine aussi. Et Charles Milliard, qui est un individu qu'on avait jasé, vous et moi, il y a de ça quelques mois. Charles Milliard, c'est un jeune, il est PDG actuellement de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Ben semblerait qu'il est pressenti pour se présenter à la chefferie du Parti libéral du Québec. Du moins, il a dit qu'il allait y réfléchir. Mais les jeunes semblent énormément derrière lui, là.
Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça. Mais écoute, il y a personne qui pense sincèrement puis honnêtement que le Parti libéral du Québec est mort. Ça a été le parti qui a été au pouvoir le plus longtemps depuis la Confédération canadienne, même si Maurice Duplessis, avec l'Union nationale, a occupé l'Assemblée nationale pendant plusieurs années. Il reste que les libéraux ont quand même, en tout cas au moins depuis 1960, ils ont été là presque tout le temps. Sauf la CAQ, deux mandats jusqu'à maintenant, puis le Parti québécois quelques années. Mais il reste que, moi, je trouve personnellement que les libéraux ont une possibilité de remonter rapidement dans les sondages à cause de l'appui de la région montréalaise particulièrement, puis des immigrants. Alors, c'est sûr que s'il arrive un chef francophone, crédible, pragmatique, et qui communique bien avec la population, il risque de prendre beaucoup, beaucoup de pourcentage, de points dans les sondages assez rapidement. C'est probablement du côté du PQ, je pense qu'on plafonne pas mal actuellement dans les sondages, mais du côté des libéraux, il y a encore des possibilités. Et c'est sûr que M. Legault doit regarder dans le miroir pas mal, parce que si les libéraux remontent, c'est beaucoup son aile fédéraliste qui va s'en aller du côté des libéraux assez rapidement, sachant que son parti, la CAQ, est en mauvaise position dans les sondages. Les gens sont écœurés. Beaucoup de promesses rompues. Et la CAQ a de la misère. D'ailleurs, en fin de semaine, la CAQ était aussi en réunion. Je pense que c'était à Saint-Hyacinthe, je ne sais pas trop. Là. En tout cas, il était en meeting. Et on a entendu assez peu parler de la CAQ. On entend parler beaucoup des libéraux ces temps-ci, qui veulent jouer sur la question économique avec le bilan de Philippe Couillard, qui a été effectivement assez positif. Mais puis là, avec le déficit de 11 milliards de la CAQ là, qui a été annoncé il y a quelques semaines, bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fédéralistes qui vont retourner au Parti libéral s'ils ont un chef qui a de moindrement d'allure. Mais il faut faire attention, les sauveurs, on se souvient Stéphane Dion chez les libéraux fédéraux, ça a fait patate. M. Ignatieff, ça a été la même chose.
Michael Ignatieff,
ouais. Alors, il faut faire attention aux sauveurs. Souvent, ils sont plus populaires avant que leur candidature soit officialisée qu'après qu'elle ait été approuvée par les militants. Alors, c'est facile d'être populaire quand t'as pas dit un mot. Hein. Moi, Charles Milliard, j'ai vu des photos de lui, je n'ai pas entendu dire un mot à date.
François Legault, est-ce qu'il devrait annoncer son départ tout de suite ou attendre dans les derniers mois avant les prochaines élections pour l'annoncer?
Ben moi, je m'attends. Ben je pense qu'il devrait l'annoncer tout de suite pour permettre à ses troupes de se réorganiser.
Ouais.
Mais je pense qu'il va annoncer ça probablement en 2025. Là, parce que la prochaine élection, c'est quoi? C'est 2026. Alors, s'il veut laisser le temps à ses troupes de se réorganiser, de se mobiliser, puis de se trouver une pertinence aussi, il faut bien faire attention, parce qu'on sait que la CAQ, c'est un parti, c'est le troisième parti au Québec, c'est un parti qui a trouvé sa niche à partir du moment où les péquistes ont été au plus bas et les libéraux ont été au plus bas. Alors, c'est à ce moment-là que la CAQ a monté. À partir du moment, la CAQ, c'est une coalition, on le sait, il y a des souverainistes, il y a des fédéralistes là-dedans. Moi, j'évalue ça à peu près à 2/3 fédéralistes, 1/3 souverainistes. Mais les souverainistes ont commencé déjà à quitter le bateau pas mal pour aller rejoindre Saint-Pierre-Plamondon. C'est ce qui explique sa montée dans les sondages. Si les fédéralistes décident de s'en aller au Parti libéral du Québec, je pense qu'il va falloir qu'il annonce très rapidement son départ pour permettre un brassage d'idées, là, les Drainville, les Guilbeault, puis les Jolin Barrette de ce monde, là, peut-être qu'ils vont se manifester avec une campagne qui va permettre peut-être à la CAQ de justifier sa pertinence. Est-ce qu'on a besoin d'un troisième parti, d'une troisième voie au Québec? C'est sa pertinence qui est importante à partir du moment où il y a deux partis. J'ai un souverainiste, l'autre fédéraliste au Québec. Ça a fait l'affaire pendant une quarantaine d'années. Pourquoi la CAQ aurait encore sa pertinence aujourd'hui? Je pense que c'est la question importante qui se pose.
Éric Kerr aussi qui a annoncé qu'il allait avoir un autre mandat. Il veut se présenter pour un autre mandat à la fin de celui-ci. Il est persuadé qu'il a les chances de gagner. Il remet ça dans les mains de sa population en disant « Ben moi, je considère avoir fait un bon travail. Je pense que les citoyens de ma circonscription pourraient revoter pour moi. » C'est assez particulier, hein? Des fois, entre ce que quelqu'un peut penser de son travail, de lui-même, versus l'impression que nous, on a en tant que média, de dire « Hey boy, attends un peu, là, il veut vraiment se représenter », alors que mon premier réflexe à moi, ce serait de partir, c'est-à-dire « Bon, là, j'ai fait quelques mandats, ça fait quelques années, je suis épuisé, mon bilan est très, très, très faible, je pense que c'est le temps pour moi de tirer ma révérence ». Lui, c'est non, il veut s'accrocher au pouvoir, veut rester là comme député, puis peut-être même comme ministre.
Oui, c'est ça. Mais comme ministre, il faudrait que son gouvernement soit élu, ce qui est loin d'être assuré. Mais comme député, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde autour de lui qui lui dit ses quatre vérités. Mais c'est sûr que ce qui a provoqué la baisse importante d'un sondage de M. Legault, qui a eu 90 députés à la dernière élection, c'est la question du troisième lien puis du bris des promesses, l'absence de boussole. L'absence de boussole sur les grands projets routiers et de transport, surtout à Québec, et le fait qu'ils aient renié la promesse du troisième lien qui était pourtant au cœur de son élection dans la région de Québec. Et il y a trois comtés, je pense, qui sont particulièrement touchés par cette promesse-là qui a été reniée. C'est bien sûr Éric Kerr qui a dit qu'elle allait remettre son siège en jeu si le projet ne se réalisait pas. Et Bernard Drinville à Lévis, puis Mme Biron qui est en chute de la Chaudière, je crois. Donc, c'est trois comtés où le troisième lien a joué un rôle déterminant, à mon avis. La Beauce aussi, mais je pense plus au niveau de la Rive-Sud, les deux comtés de la Rive-Sud dont je viens de parler, et M. Kerr. Alors là, la question, c'est de savoir jusqu'à quel point les électeurs vont se souvenir de cette promesse-là qui a été reniée à quelques 6 mois suivant le vote de 2022. Dans quelle mesure les gens vont se souvenir de ça? Moi, je m'en souviens, puis pour moi, un gouvernement qui ne respecte pas une promesse qui est au cœur de son élection ne mérite pas d'être élu, peu importe ce qu'il va promettre la fois suivante. Mais c'est sûr que si les électeurs se souviennent, M. Kerr ne sera pas réélu. Mais on sait que la mémoire des électeurs est souvent le facteur le plus incertain dans les élections générales. On verra bien ce qu'il y en est, mais ça montre jusqu'à quel point les politiciens eux-mêmes sont cyniques par rapport à la population, parce que Éric Kerr, à partir du moment où le troisième lien s'est pas fait, il aurait dû prendre ses bébelles et s'en aller, là. Il aurait dû quitter le caucus de la CAQ, y rester, avec la bénédiction de M. Legault. Alors, ça veut dire que la CAQ est devenue, dans l'esprit de bien des gens, un parti traditionnel. Un parti traditionnel au Québec, c'est un parti qui ne respecte pas ses engagements électoraux.
On passe à un prochain sujet. C'est un sondage Léger Québécois. Puis on a appris ça sous la plume de Michel Gérard dans le Journal de Québec qui. Bon, le Québécois a posé des questions avec Léger. Pensez-vous que les Québécois sont les plus taxés au Canada, oui ou non? Et c'est 76% des répondants qui ont répondu oui. 60. Donc le trois quarts des Québécois considèrent qu'on est les plus taxés au Canada.
Oui, puis c'est vrai, hein? Alors, le taux, même pour quelqu'un qui gagne 50 000 piastres par année, le taux marginal d'imposition au Québec est de 31 % par rapport à l'Ontario, qui est à peu près à 24 %. Quand tu compares à l'État de l'Oregon, puis ça, c'est Michel Girard du Journal de Montréal qui le disait dans sa chronique d'hier, l'État de l'Oregon qui affiche le taux marginal le plus élevé, on est à 20 %. Mais c'est pas ben ben sorcier. Les Québécois savent qu'ils sont les plus taxés. Et là, on parle du taux marginal d'imposition, mais là, on n'a pas parlé de toutes les taxes sur les immeubles, les taxes sur l'essence, toutes ces taxes-là qui s'ajoutent, hein, les taxes gouvernementales un peu partout, les taxes municipales sur la propriété, le chalet, le triplex, etc. Alors, en réalité, on le sait que ça nous coûte les yeux de la tête au Québec. Et le gouvernement a toujours eu tendance à nous servir l'argument des services, en disant, oui, c'est vrai, les Québécois, vous êtes taxés, mais vous avez des services incroyables, vous avez des garderies, vous avez les soins de santé gratuits, vous avez les écoles, vous avez les routes, il n'y a pas de péage au Québec, etc. Mais on n'est pas fou non plus, on s'aperçoit bien que même s'il y a beaucoup de services techniquement auxquels on a accès gratuitement, dans les faits, si tu essaies de voir un spécialiste, ça va te prendre un an et demi en médecine. Les CPE, les garderies sont pas accessibles. Il y a quantité de parents qui sont pas capables de trouver un service de garde. Des femmes qui sont à la maison, qui n'ont pas le choix, qui sont pas capables d'aller travailler parce qu'elles sont incapables de trouver un service de garde pour leur enfant. Moi, je pense qu'on a un problème au Québec avec tout ça. On s'est doté d'un État-providence obèse et tentaculaire. C'était un peu le slogan de Jean Charest en 2003. Écoute, ça fait plus de 20 ans. L'État obèse et tentaculaire, mais il a encore grossi. Je pense qu'il y a 10 000 fonctionnaires de plus depuis que François Legault a pris le pouvoir. Alors, on grossit la machine. Il y a de plus en plus de fonctionnaires. Il y a de plus en plus d'impôts à payer. Mais on a l'impression que les services sont, l'accès aux services est inversement proportionnel aux impôts qu'on paye. Et là, je te parlais du 50 000 piastres, mais Michel Girard, dans un article qui s'appelle, je vais te donner le titre, En plus de la trappe à tickets, il y a la trappe à impôts et taxes. Alors, Michel Girard, c'est un billet du samedi 25 mai. Il fait aussi état là, du 100 000, du 75 000 et du 150 000 par année. Et puis, il nous dit qu'à 75 000, par exemple, le taux marginal d'imposition à 75 000 est à 36 % au Québec, puis en Ontario, il est à 29 %. On n'est pas obligé d'aller bien, bien loin. On n'est pas obligé d'aller en Irlande puis d'aller en Floride pour voir les différences importantes. Même au Canada, on est les dindons de la farce en termes d'imposition, puis on paye une fortune pour grossir notre bureaucratie, essentiellement.
Mais on parle souvent de paradis fiscaux là, quand il s'agit. Le gouvernement nous parle de ah, ben, ces entreprises-là sont dans des paradis fiscaux. Mais si les paradis fiscaux existent, parce que les enfers fiscaux existent aussi, puis le Canada, principalement le Québec, semble être un enfer fiscal. Vous l'avez dit avec les paliers d'imposition. Bon, le 75 000 paliers d'imposition au Québec, c'était 36,12 %. En Ontario, 29,65 %. Il y a quand même un 6,5 % de différence. Puis là, si on compare avec les États-Unis, ils sont encore plus bas. 150 000 revenus imposables, taux marginal au Québec, 46,47 %. Donc, on te met ça à 75 000 $. C'est le taux le plus élevé de toutes les provinces canadiennes et des États américains. Si on regarde pour ce qui est de l'Ontario, ils sont à 44,97 $ pour les gens qui gagnent 150 000 $ et plus. Je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir. Je sais que Paul Saint-Pierre Plamondon voudrait que le Québec se sépare du Canada, mais qu'est-ce que ça va être? T'sais, est-ce qu'on va conserver le même panier de services qu'on s'est doté dans les dernières décennies, qui est un gros, gros panier de services? On peut être fier de certains, du moins pour ce qui est des garderies. Moi, je trouve ça très, très, très important, malgré le fait que les Québécois en bénéficient de moins en moins, puis c'est les nouveaux arrivants qui en bénéficient de plus en plus. Mais on peut être fier du système de garderie. Système de santé, on va se le dire, c'est défaillant actuellement. Il coûte extrêmement cher. Puis actuellement, on donne plus d'un milliard de dollars par année, par semaine. On donne plus d'un milliard de dollars et on nous dit que c'est pas suffisant. Nos infrastructures sont désuètes. Nos écoles, ça semble plus nécessairement fonctionner. Les professeurs sont à bout. Ça coûte extrêmement cher. Puis on se dit, est-ce qu'on va être capable de soutenir ça longtemps? Parce que moi, là, je regarde ça, les paliers d'imposition, je me dis, mais à quoi ça me sert de travailler plus? On m'en demande plus hein, dans mes poches. On ne m'encourage pas à travailler plus, là.
Oui, c'est ça. Puis ce que M. Girard n'aborde pas dans sa chronique, et j'espère qu'il le fera éventuellement, parce que c'est un chroniqueur économique respecté chez Québécois, Il nous parle de l'imposition qui est au plafond. Les Québécois sont littéralement égorgés par les impôts et les taxes et les droits de toutes sortes qui sont payables, l'immatriculation et etc., la taxe sur l'essence. Je pense qu'il faudrait que les gouvernements apprennent à dire non. Et c'est drôle parce qu'une fois qu'ils sont élus, on a l'impression que l'action gouvernementale au Québec depuis 60 ans, c'est de faire des choses. Alors que peut-être le gouvernement devrait apprendre à ne pas faire des choses, c'est-à-dire à essayer de peut-être simplement rendre fonctionnel le système actuel sans injecter nécessairement du nouvel argent. Et on dirait que quand les gouvernements sont élus, ils promettent la Lune, ils sont élus, ils essayent de livrer la Lune, puis ils se rendent pas compte du fait qu'à chaque fois, il y a des argents additionnels qui sont requis. C'est les contribuables du Québec qui payent pour ça. Je regarde Trudeau dans son dernier budget au fédéral. C'est la première fois que le gouvernement fédéral enregistre un service de la dette à 42 milliards, alors que son budget total en santé pour l'ensemble du Canada, c'est 41 milliards. C'est la première fois au fédéral, puis là, je ne parle pas juste du Québec, parce que le taux d'imposition pour les Québécois, c'est aussi le fédéral, parce qu'on paye aussi des impôts fédéraux. On a un mégalomane à Québec qui s'appelle Legault, puis on a un mégalomane à Ottawa qui s'appelle Trudeau. Et c'est la première fois que on paye plus pour payer nos intérêts sur la carte de crédit, 42 milliards par année, que le fédéral donne aux provinces par les transferts en santé pour l'ensemble du Canada qui est à 41 milliards. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et moi, je serais porté à voter dorénavant pour le parti qui va promettre le moins possible en termes de dépenses, puis qui va promettre de dire non. Non à tout ce qui peut coûter de l'argent, à moins que ça soit rentable. Tu sais, je regarde Pierre Poilievre au fédéral, il dit, moi, je permettrai jamais à un de mes ministres de dépenser un dollar s'il n'est pas capable de justifier un revenu de un dollar. Donc, c'est un dollar pour un dollar. C'est déjà ça. Mais tu sais, on est à gauche depuis 60 ans au Québec puis au Canada, là. Peut-être qu'aller à droite, une fois de temps en temps, ce serait pas mauvais pour essayer d'endiguer cette hémorragie financière-là, épouvantable, qui nous coûte les yeux de la tête. Puis peut-être qu'éventuellement, M. Girard, notre chroniqueur économique, va parler de l'économie au noir. Parce que ça, c'est le côté caché de la fiscalité québécoise. Plus les gens payent d'impôts, plus ils sont portés à ne pas déclarer leurs revenus, parce qu'à un moment donné, tu sais, dans la restauration, dans la construction, dans le domaine des services, il y a des gens qui sont écœurés de payer puis qui se font justice eux-mêmes, qui se disent, si le gouvernement est pas capable de comprendre puis qu'il continue de m'égorger, peut-être que moi, je vais être porté à moins déclarer mes revenus. Puis l'économie au noir, probablement est en croissance. Je crois que ça doit être en croissance parce que plus le taux d'imposition est élevé, plus ceux qui sont en mesure de ne pas tout déclarer le feront. Et ça, ben, c'est au bout de la ligne, est-ce qu'on y gagne? Les gens ont plus confiance des institutions. L'institution en qui ils n'ont pas confiance, c'est le ministère du Revenu. Et c'est ça le problème qu'on risque de vivre au Québec en plus,
En
de
fait, le
plus en plus.
ministère du Revenu, M. Bellemare, c'est notre seul ami. Il veut notre bien, puis il va l'avoir même après notre mort. Hein? Mais pour ce qui est
C'est
de la
ça.
droite économique, effectivement, Pierre Poilievre est de la droite économique. Et je me pose toujours des questions à savoir, qu'est-ce qui fait si peur dans cette droite économique-là? Est-ce que c'est si pire que ça que de demander au RTC, gérez-vous à l'intérieur, là, regardez à quel endroit vous pourriez couper, regardez si vous pourriez pas remplacer deux départs à la retraite pour un employé, faites le ménage dans votre propre organisation, puis si jamais en bout de ligne il vous manque de l'argent, ben là vous viendrez me voir. Mais c'est le RTC ou encore les maires du Québec sont tout le temps là en train de quêter sans nécessairement faire le ménage dans leur propre organisation. Puis Pierre Poilievre l'avait dit il y a ça quelques mois, puis ça avait soulevé un tollé, ben, il est hors de question qu'on donne de l'argent à des gestionnaires incompétents ou des maires incompétents. Il avait dit maire incompétent à ce moment-là, et là, tout le monde était outré de ça. Mais à quelque part, il avait peut-être raison, tu sais. Faites attention à ce que vous faites avec l'argent du contribuable.
Oui, c'est ça. Exactement. Puis, moi, non, je pense que les Québécois sont frileux par rapport à la droite, mais il faudrait qu'on ait quelqu'un à un moment donné qui soit capable d'aligner des colonnes de chiffres comme du monde. Et du côté, tu vois, les libéraux en fin de semaine disent, ça nous intéresse, nous, d'avoir un équilibre budgétaire au Québec. Et le leader intérimaire des libéraux, Marc Tanguay, disait, on veut revenir à l'équilibre budgétaire et on veut revenir à ce que M. Couillard avait comme premier ministre atteint comme équilibre budgétaire. Et là, tout de suite, on parle d'austérité parce qu'on se souvient que quand Philippe Couillard avait atteint l'équilibre budgétaire, il y avait le mot austérité. Austérité, ça veut dire faire attention à nos scènes, ça veut dire dépenser le moins possible. Et là, la seule chose qui était dans la couverture médiatique à ce moment-là, c'était qu'il y a des services peut-être qui allaient être affectés à la population. Et on a l'impression au Québec que tout ce qui intéresse les gens, c'est les services qu'ils peuvent recevoir. Il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à ce que ça coûte. Et c'est ça le problème. À mon avis, c'est ce qui... Tu sais, Québec solidaire, en fin de semaine, une grosse couverture sur la déclaration de Saguenay. Mais est-ce que quelqu'un qui a demandé à Gabriel Nadeau-Dubois, vous, là, le taux d'imposition, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la dette, ça vous intéresse? Est-ce que le taux d'imposition des Québécois, ça vous préoccupe? Est-ce que dans votre programme, vous allez avoir un intérêt pour contrôler la dette au Québec? Ça n'intéresse pas grand monde, en réalité. Le payeur de taxes, il est inquiet, mais dans le discours ambiant, dans le discours politique et dans le discours des partis politiques, dès qu'il y en a un qui commence à dire on va contrôler les dépenses, ensuite il y a trois, quatre micros qui apparaissent. Ouais, mais là, allez-vous couper là? Allez-vous couper là? Où est-ce que vous allez couper pour contrôler les dépenses? C'est sûr que si tu contrôles les dépenses, il y a moins d'argent qui vont aller dans la machine puis dans les services. Mais puis il y a des syndicats aussi qui vont se lever pour dire, mais là, vous allez couper des postes, puis là, vous allez couper des jobs, puis etc. Puis on a l'impression que le discours, il est à sens unique. Et c'est peut-être pour ça qu'on est autant à gauche au Québec et depuis autant d'années, puis qu'on a l'impression que c'est une tendance lourde.
On parle maintenant de noyade. J'ai été surpris de voir cette statistique-là, Maître Bellemare. C'est un enfant par jour qui se rend aux urgences au Québec en lien avec une noyade. C'est atroce. Je pensais que c'était beaucoup moins que ça. En fait, on entend parler un peu, mais seulement quand il y a des décès.
Oui, c'est une dépêche de la presse d'hier qui nous parle surtout, là, c'est un chirurgien pédiatrique, docteur Louis Sani, qui est à Montréal, qui se dit, moi, là, ce que je trouve le pire, c'est quand des parents se présentent à l'urgence avec un enfant qui vient de se noyer ou qui a passé proche de se noyer. Et lui, ce qu'il dit, c'est, écoutez, il y a eu là 83 décès par noyade au Québec en 2023, comparativement à 61 en 2022. Alors, il y a un problème là. Alors, et puis les noyades, Yannick, là, c'est pas au mois de novembre, là, on s'entend là. Le monde se baigne pas au mois de novembre, là. Bien qu'il puisse peut-être y avoir des noyades dans les piscines, mais c'est intérieur, mais c'est beaucoup moins risqué. Il y a beaucoup plus de surveillance. Le problème, c'est surtout le petit bungalow de banlieue avec le petit bonhomme de 2 ans qu'on laisse aller sans trop de surveillance. Mais est-ce que tu sais combien ça prend de secondes pour se noyer, Yannick?
Pour un enfant, 60 secondes.
Bon, regarde, en tout cas, c'est ce que le médecin dit. Vous ne quittez pas un enfant des yeux même pendant quelques secondes, car la noyade peut survenir en moins de 20 secondes. Et c'est généralement un événement silencieux. Ce n'est pas comme à Hollywood où on entend quelqu'un crier. Effectivement, dans une piscine de banlieue, il y a moins de risques, mais j'ai été frappé par ce chiffre-là, moi, 20 secondes. Ça veut dire qu'un enfant qui rentre dans l'eau comme il faut, qui est complètement submergé, peut, en l'espace de 20 secondes, peut-être pas mourir, mais en tout cas, atteindre un niveau critique qui peut mener facilement au décès.
Mais
Alors, c'est
je
un
regardais.
par jour, là, c'est beaucoup. Et je pense que pour les parents, là, c'est le temps ou jamais de se préoccuper de est-ce que vos installations sont sécuritaires? Puis on parle des enfants surtout de 1 an à 3 ans qui présentent des risques accrus, là. Je pense que c'est pas les dernières noyades qu'on va avoir au Québec.
Non, mais en même temps, la solution idéale, c'est quoi? C'est de donner très, à un âge très jeune des cours de nage à nos enfants.
De natation.
De natation,
non, mais
c'est
un
le mot
enfant
cherché.
De 2 ans, un enfant de 2 ans peut pas apprendre à nager.
Ben oui, mais mon enfant, il prenait des cours de natation à 9 mois, Maître Bellemare, là. Ça commence très jeune, puis ils apprennent très, très, très rapidement. Parce que de mettre des clôtures partout à un moment donné, tu sais, nous autres, on avait un lac. Là, on ne commencera pas à mettre des clôtures autour du lac. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, tiens, on va y aller par l'éducation. Puis, à un très jeune âge, on allait à la piscine dans le secteur de Lévis, puis on prenait nos cours à chaque fin de semaine avec notre bébé, puis on les a fait avec les deux. Puis aujourd'hui, mes deux enfants sont capables de nager. Mais de dire, ah, mettez des clôtures partout, il va toujours y avoir des accidents de cette façon-là. Il faut toujours y aller en amont, il faut y aller avec l'éducation. L'éducation, ça sert à enrayer un certain pourcentage de racisme. L'éducation, ça sert à enrayer un certain pourcentage de xénophobie. L'éducation, ça sert à nos enfants à pouvoir nager. Ça passe par l'éducation d'abord et avant tout. Puis je me demande si ça ne devrait pas être obligatoire quand on est jeune parent, de montrer à nos enfants à nager. Ça devrait faire partie du cursus qu'on peut donner à notre enfant qui sert à l'éducation, mais aussi à prévenir ce genre d'incident-là. Puis je suis entièrement d'accord avec le médecin qui dit que c'est probablement la pire journée de leur vie quand ils arrivent avec leurs enfants aux urgences. Mais de l'autre côté, tu sais, la plupart de ces gens-là devaient justement avoir des clôtures puis des barrières et tout ça. Mais si l'enfant ne sait pas nager, mais de belle mort, on n'est pas plus avancé.
C'est sûr, mais les exemples que tu donnes, Yannick, là, c'est les cours de natation. Moi, j'ai eu des enfants qui en ont suivi, là. Tous les enfants que j'ai eus ont suivi des cours de natation. Mais là, on est dans une piscine, généralement intérieure, avec des instructeurs, avec des ballons au bras, avec des ballons au dos, toute une organisation, des instructeurs, tout ça. Mais la problématique qui sévit, puis les noyades, je pense pas qu'ils surviennent dans ce contexte-là. Je pense qu'ils surviennent surtout dans des moments de distraction. Où là, tu as des enfants qui jouent dehors, il fait 22, 23 degrés dehors, on est samedi matin, on a des amis à maison, on prend un petit déjeuner, une petite bière l'après-midi, en soirée, puis les enfants se promènent, puis ils risquent de... C'est là que je pense que les risques de noyade sont les plus patents. Mais tu sais que les piscines, je regarde la réglementation actuellement, là, tout accès à une piscine de 60 cm de profondeur ou plus doit être clôturé. Même si c'est une piscine gonflable, ça doit être clôturé, puis la clôture doit mesurer au moins 1,2 m de hauteur. 1,2 m, c'est pas beaucoup, là. Ça représente à peu près 40 pouces pour les plus vieux, là. Et ça doit être difficile à escalader. Maintenant, les règles que je viens d'énoncer. Si votre piscine a été installée avant le 1er novembre 2010, vous avez jusqu'au 30 septembre 2025 pour vous conformer. Ça veut dire que ça va aller au 30 septembre de l'année prochaine. 30 septembre étant, bien sûr, le moment de l'année où il n'y a plus beaucoup de baignades. Ça veut dire que pour l'été 2024 et l'été 2025, si votre piscine a été installée avant le 1er novembre 2010, il n'y a pas d'obligation de te conformer. Ça veut dire qu'en théoriquement, tu n'es pas obligé d'avoir... un espace baignable clôturé en 2024 puis en 2025 si ta piscine est installée avant le 1er novembre 2010. Moi, je sais que si j'avais une piscine hors terre ou une piscine creusée près de chez moi, il y aurait une clôture. Je peux être sûr de ça. Mais là, c'est pas une obligation. On a reporté l'obligation pour les clôtures. Mais il y a quand même des piscines qui sont pas clôturées au Québec. Et j'ai pas vu les chiffres là-dessus, mais j'ai l'impression que quand que tu as un espace clôturé ou un espace qui est difficile à escalader, pour un petit bonhomme de 2 ans ou 3 ans, tu as moins de risques qu'il y ait une noyade dans ta cour.
Maître Bellemare, on va faire une courte pause. Je vous rappelle que ce soir, on a le plaisir, encore une fois, à chaque lundi, d'être... Maître Marc Bellemare est avec nous et on parle d'animaux. Ah oui, on parle d'animaux. Maître Bellemare, moi, si j'avais un immeuble à logement, je vous le dis tout de suite, un immeuble à logement, c'est un investissement. Et dans mes immeubles à logement, il n'aurait pas d'animaux de compagnie, surtout pas des chiens, Maître Bellemare.
Ah ben là...
Je suis écoute, cruel, hein?
Il y a des gens qui sont émotionnellement attachés à leur animal.
Oui, puis c'est bien correct. Moi, je suis émotionnellement attaché à mon animal.
va provoquer quantité de perturbations émotionnelles. Il y a des gens qui dormiront plus parce qu'ils
Maître
n'ont pas leur
Bellemare,
chien,
j'ai
etc. Ouais.
Maître Bellemare, j'ai un Golden Retriever chez nous. Un Golden, ouais, c'est ça, j'ai un Golden chez nous. Et j'avais des beaux planchers de bois franc, Maître Bellemare. Quand je suis rentré dans cette belle maison-là, tout était parfait, c'était ciré, il n'y avait rien, aucune graphine sur le plancher. Et après un an, Maître Bellemare, là, il n'y a plus un espace de mon plancher qui n'est pas graffiné. Mon Golden a tout ratifié ça à grandeur. C'est incroyable. Je peux vous dire que moi, si j'avais un immeuble à logement, c'est un investissement, il n'y aurait pas d'animaux de compagnie. Des chats peut-être, des mini-mini chiens, mais des gros chiens, ça serait non.
Oui, c'est ça.
Je suis
Mais là,
cruel.
il semble, et j'ai vu ça sur le site d'Éducalois, là, il semble qu'il y a. Bon, écoute, si tu as déjà un bail et le propriétaire demain matin dit tu n'as plus le droit d'avoir des animaux, ça constitue une modification au bail. De la même manière que de te priver d'un cabanon, de te priver d'un parking ou d'augmenter ton loyer. Et tu peux, comme locataire, t'opposer à une modification au bail puis demander au tribunal administratif du logement, anciennement la régie des loyers ou la régie du logement, d'intervenir. Maintenant, si il n'y a pas si c'est un nouveau bail, c'est un nouveau local, mais le propriétaire, il peut décider qu'il n'accepte pas des animaux. Si c'est marqué sur le bail, si c'est marqué sur le texte du contrat, le propriétaire peut fort bien décider de ne pas accepter les animaux. Et dans les condos, et condos où je demeure, c'est une règle très respectée, il n'y a pas d'animaux. Point.
Il n'y a
Il n'y a
pas de
pas
chat. Il n'y a pas
d'animaux
de chat.
parce que ça affecte la quiétude des lieux, puis ça affecte les aboiements, les odeurs, le bruit, etc. Et si tu acceptes un animal, tu en acceptes deux, tu en acceptes trois, puis tu peux te retrouver avec un voisin qui en a cinq, six, là. Alors, tu peux pas modifier le bail en cours de route pour interdire les animaux si ça n'a pas été prévu dans le contrat initial, mais tu peux, comme propriétaire, avoir un bail qui va interdire la présence d'animaux. Et si c'est le cas et que le locataire signe ça, puis qu'à un moment donné, il rentre un animal dans le logement, tu peux, comme propriétaire, demander la résiliation du bail parce que c'est le non-respect du bail. Et si tu as des locataires autour qui vivent un préjudice et qui se plaignent du fait qu'il y a un animal dans le logement d'à côté, bien, ça va augmenter tes chances d'obtenir le départ du locataire en question.
Mais en même temps, c'est pas parce que souvent on voit les propriétaires d'immeubles à logement comme des êtres cruels de ne pas accepter d'animaux, mais il faut comprendre que ça se peut que votre chien ne jappe pas, mais ça se peut que l'autre chien qui fasse rentrer dans l'appartement juste à côté du vôtre, ben lui, c'est un jappeur professionnel, puis du matin jusqu'au soir, quand son maître est pas là, il ne fait que japper. C'est tannant en sacrifice pour les autres locataires. Puis je vous le dis, moi j'ai un Golden, là, il est autour de 100 livres, mon Golden, il a tout scraper les planchers dans la maison, là. T'sais, il n'y a plus rien à faire. Donc, lorsqu'il sera en fin de vie, lorsqu'il passera dans un autre monde, ben j'aurai plus de gros chiens si je veux des beaux planchers, là. Je vais devoir prendre cette décision-là parce que, honnêtement, un gros chien, ça scrape tout. Même s'il est super éduqué, c'est un chien, il s'amuse, il a du fun, puis ben, des fois, il brise des trucs. Donc, quand c'est un investissement qu'on fait, on achète un deux logements, un trois logements, un quatre logements, ben, le propriétaire est en droit de dire, moi, je ne veux pas d'animaux de compagnie dans ma maison, là.
Oui, c'est ça. Mais il faut le prévoir dans le bail. Ce que
Ouais.
disait Yannick, c'est ça. C'est qu'il faut le prévoir dans le bail que les animaux ne sont pas acceptés dans cette bâtisse-là. Alors, si c'est prévu dans le contrat, mais tout le monde doit s'y soumettre, incluant le locataire. Mais le problème, c'est que souvent, les propriétaires ne prévoiront rien là-dessus. Le locataire se présente, il ne dit pas qu'il y a un animal, il n'y a rien dans le contrat. Puis à ce moment-là, le propriétaire arrive avec son chien ou avec son chat, ou avec sa bestiole d'autre nature. Et à ce moment-là, c'est là qu'il y a un conflit. Alors, si ce n'est pas prévu dans le contrat, ça veut dire que le propriétaire doit envoyer un avis 3 à 6 mois avant la fin du bail à son locataire pour dire, vous devez vous débarrasser de votre animal. Et le locataire peut refuser et dire, je garde mon chien. Puis à ce moment-là, c'est le tribunal administratif du logement qui va décider si le propriétaire a le droit de modifier le bail, parce que si ce n'est pas prévu dans le contrat, ça veut dire que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Si ce n'est pas prévu dans le contrat, qui risque de trancher à savoir si le locataire peut garder son animal ou pas, parce que ça constitue une modification, donc une interdiction additionnelle qui n'était pas initialement prévue. Fait que si vous êtes propriétaire d'un édifice à logement que vous ne voulez pas d'animaux, précisez-le clairement dans le contrat que le locataire va signer, puis à ce moment-là, vous allez avoir une bonne prise pour empêcher toute forme d'animal de résider dans votre édifice à logement.
Maître Bellemare, on parle d'un dossier qui date peut-être de quelques jours, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler avec un avocat. C'est le dossier d'Adil Sharkawi. Adil Sharkawi, qui, devant une foule de plusieurs milliers de personnes, avait dit « Allah, charge-toi de ces agresseurs sionistes. Allah, charge-toi des ennemis du peuple de Gaza. Allah, recense-les tous, puis extermine-les et n'épargne aucun d'eux. » Vous comprendrez que ces propos-là ont été assez décriés dans les médias. Il y a même le premier ministre François Legault qui trouvait ça tout à fait épouvantable que ce genre de discours-là puisse être fait. Puis le DPCP, ben, qui a pris une décision, il n'a pas nécessairement expliqué sa décision, il a tout simplement dit que il n'y a pas d'incitation à la haine là-dedans, puis on ne poursuivra pas M. Adil Sharkawi. Je trouve ça triste un peu comme décision, puis j'aurais aimé qu'on nous l'explique, parce qu'à un moment donné, ça n'a comme pas de bon sens. Si moi je prononce ces phrases-là à la radio, je pourrais être enfermé sur le champ. Et quand un imam, quand un curé musulman décide, lui, de prononcer ces paroles-là, ben ça passe. Il y a une double mesure là. Pourquoi ce gars-là n'est pas entre les barreaux aujourd'hui? On se pose la question.
Oui, c'est ça. Mais il y a des fois que le DPCP nous fait honneur, il y a des fois que le DPCP nous fait honte. Et moi, personnellement, j'ai honte du DPCP aujourd'hui. Le DPCP, c'est quoi? C'est la direction des poursuites criminelles et pénales. C'est-à-dire, c'est l'instance au Québec qui, alimentée par des enquêtes de police, généralement, décide ou non de porter des accusations parce qu'il y a eu violation d'une loi pénale, donc provinciale, ou d'une loi criminelle, à savoir le Code criminel canadien. Et on sait qu'au Canada, les discours haineux constituent des actes criminels. La question, c'est de savoir si le fait d'avoir dit Allah, charge-toi de ces agresseurs sionistes, Allah, charge-toi des ennemis du peuple de Gaza, Allah, recense-les tous, puis extermine-les et n'épargne aucun d'entre eux. Alors, les sionistes, là, sont les juifs favorables à un État juif, donc à l'État d'Israël. Moi, je ne comprends pas, Yannick, comment on peut tolérer ce type de discours-là. Et le discours n'a pas été prononcé dans le sous-sol d'une mosquée, en quelque part, ou dans un espace enfumé, là, d'une région, là. Le discours a été prononcé à Montréal, publiquement, il a été enregistré, il a été filmé, et à ses propos haineux, les gens qui assistaient au discours de M. Charcabou ont répondu Amen. Donc, approuvant le discours haineux. Moi, je trouve que c'est une honte nationale. À l'époque, la police avait dit, on va demander à la Gendarmerie royale du Canada de s'intéresser à l'affaire et d'enquêter. Il semble que ça a été fait. Et au bout de la ligne, sans aucune motivation particulière, le DPCP décide, sans expliquer sa position, alors que ça aurait été indiqué, à mon avis, surtout compte tenu du caractère hautement public, religieux, politique des propos de M. Charcaoui. Je trouve ça personnellement scandaleux qu'au Canada, on puisse permettre ce genre de discours-là. Et je te dirais qu'à mon avis, il y a des explications peut-être plus politiques qui expliquent ça. Est-ce qu'il y a eu des interventions politiques? Est-ce que la Gendarmerie royale du Canada n'a pas voulu allumer un feu? Est-ce qu'on n'a pas voulu, en accusant M. Charcaoui, le présenter en martyr, compte tenu des occupations qui se passent à l'Université du Québec et à l'Université McGill en faveur de la Palestine, peut-être qu'ils ont jugé que ça aurait été, accuser cet individu-là, ça aurait été lui donner énormément de visibilité, le présentant en victime du système, un peu comme Trump aux États-Unis, qui se voit victime dans à peu près toutes les accusations dont il est l'objet. Peut-être qu'ils ont pensé que ça allait avoir l'effet contraire et que ça allait lui permettre d'avoir énormément de visibilité puis de répéter à satiété ses propos, je ne sais pas. Mais moi, je pense que dans les jours qui ont suivi ce discours-là, il aurait dû y avoir des accusations au niveau du code criminel et on aurait dû tout faire pour que cet individu-là soit condamné pour un discours haineux.
Ouais, puis je regardais dans le texte de Léger, là, dans le journal de Québec, il mentionne que le Code criminel canadien, il y a une exemption religieuse à l'incitation publique à la haine. C'est une exemption qui aurait été ajoutée en 2004 par Paul Martin du gouvernement libéral d'autrefois. Aujourd'hui, le droit canadien donne préséance à la liberté d'expression religieuse sur l'incitation à la haine lorsque les propos sont prononcés de bonne foi ou fondés sur un texte religieux auquel il croit. Donc, ce qu'il dit en terminant, c'est si vous êtes un rabbin, un curé, un imam ou encore un religieux de tout autre acabit, ben bonne nouvelle, la loi vous donne un privilège sur l'incitation publique à la haine, ce qui est à mes yeux totalement inacceptable.
Ouais, ben pour moi personnellement, je n'en crois rien, Yannick. Je ne pense pas que l'exemption qu'on prévoit dans le code criminel pour les discours religieux soit applicable ici. Et de toute façon, ce n'est pas au DPCP à décider. Au final, c'est au juge à décider. Et on a besoin de développer une jurisprudence, c'est-à-dire des jugements de cour, des juges qui vont se prononcer, qui vont dire est-ce que c'est un discours haineux ou pas. Si le DPCP dépose des accusations en disant, écoutez, ce qui a été dit par M. Charkaoui n'est pas visé par l'exemption religieuse parce que ce sont des propos qui n'ont pas été prononcés de bonne foi. M. Charkaoui, sachant fort bien ce qui se passe à la bande de Gaza et en Israël, c'est pas fondé non plus sur un texte religieux auquel il croit. Et ça dépasse l'exemption prévue au code criminel. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait des jugements qui soient prononcés sur cette question-là. Et je pense qu'on avait là un cas exceptionnellement clair, public, facilement prouvable, en produisant simplement la vidéo et en permettant à M. Charkaoui de s'expliquer, le juge aurait tranché à savoir si c'est acceptable que ce type d'appel à l'extermination des sionistes sans exception, soit toléré à Montréal. Et on aurait eu un jugement de cour éventuellement qui aurait été prononcé là-dessus. Et je pense qu'on a manqué là une très, très belle occasion. Puis moi, les explications, puis les simples références au code criminel ne me satisfont pas. Je trouve que c'est carrément inacceptable. Puis à un moment donné, il va falloir que les discours haineux, que les dispositions du code criminel qui empêchent les propos haineux prennent un sens. Ils n'en prennent pas pour l'instant. Si on se fie sur ce que M. Charkaoui a dit, puis si on se fie sur le fait que d'autres discours, d'autres déclarations publiques de ce type-là ne fassent pas l'objet d'accusations criminelles, ben, je pense qu'on est assez mal parti.
Maître Marc Bellemare, c'est toujours un plaisir. Est-ce que vous avez une grosse semaine devant vous?
Oui, tout à fait. On va se rendre à vendredi, Yannick.
Oui, bon, un jour à la fois.
Oui.
Maître Bellemare, merci.
Fait plaisir. Bonne semaine à tout le monde.
Bonne semaine pour des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNSST. C'est bellemareavocat.ca. Maître Bellemare, on lui parle à chaque lundi, donc il sera de retour lundi prochain. Moi, je vous souhaite de passer une belle soirée, puis on se reparle demain 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Bye-bye.